Nous sommes le dimanche 21 août et vous écoutez le 10e épisode de Proxy Jeux.
Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité des jeux de société.
Et merci aux boutiques Philibert qui nous aident à réaliser cette émission.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bonjour Jérémy.
Bonjour Olivier.
Alors Jérémy, est-ce que tu peux nous dire de quoi on va parler aujourd'hui dans ce 10e épisode, ce premier épisode de la 2e saison de Proxy Jeux ?
Alors, on va parler bien sûr d'un petit peu d'actualité. Ensuite, je te propose d'échanger sur nos jeux de l'été.
Les jeux auxquels on a joué.
Ouais, les jeux auxquels on a joué, hein, parce qu'on a profité de l'été pour jouer à plein de choses, autant en parler.
Ouais, tout à fait.
Ensuite, un petit panorama des événements de la rentrée.
Parce qu'il y en a.
Ah, c'est plein, oh là là. Et puis éventuellement un petit peu parler côté écran,
Oui.
Un petit peu d'actualité.
Oui, tout à fait. Je rejoins ce que tu disais lorsque nous nous sommes quittés avant l'été. L'été a été très très intéressante au niveau des écrans.
Et puis pour cette saison 2, avec Olivier, on a profité, on a réfléchi un petit peu au format du podcast, ce qui marchait, ce qui marchait pas, on a tenu compte de vos commentaires, et donc on va essayer de changer la formule au fil des numéros,
oui.
Parce que là, aujourd'hui, la reprise est dure.
Très très dure.
Donc on peut espérer qu'on arrivera mieux à faire ça dans les prochains. Donc n'hésitez pas à nous donner vos commentaires sur la nouvelle formule. Enfin,
C'est la V2.
C'est une formule. Ouais, c'est une V2.
V1.
Voilà.
V1.
C'est une correction mineure, mais on va essayer d'être plus dynamique, etc. De mieux structurer tout ça.
Voilà. Autre petit changement, les jingles. On ne sait pas trop où on va. On est en train de. On a fait une sélection qui nous plaît bien, donc on va commencer avec ce numéro et vous verrez que ça risque d'évoluer dans les semaines à venir. Et j'espère que ça sera un petit peu plus agréable à écouter que mes airlocks et autres bruitages GarageBand.
Et si vous êtes musicien et que vous voulez participer et nous aider, on est preneur de vos enregistrements.
Pour les gens qui fréquentent notre site internet, je vous le rappelle, podcast.proxy-jeux.fr, vous avez sans doute remarqué que j'ai mis en ligne un billet sur un podcast qui s'appelle Basincast. Alors Basincast, c'est un nouveau podcast qui est né début d'année 2011. Ça parle de plein de choses. Est-ce que tu as été... Non. Signe de test négatif. Non.
Non.
Pas encore. Lui, il revient de vacances. Lui, il y a eu du soleil et pas de la pluie.
Rentré hier, c'est dur de la reprise.
Tout à fait. Donc, je ne saurais que vous conseiller d'aller écouter ce podcast. C'est un petit peu long. C'est-à-dire que ça dure parfois, souvent même plus de 2 heures. Les sujets sont très variés. Si vous êtes curieux, si vous avez envie d'entendre parler de religion, de bitcoins, de tourisme urbain, enfin d'exploration urbaine ou de choses comme ça, n'hésitez pas. Et en plus, ils parlent de jeux de société. C'est un petit peu pour ça que j'ai fait un billet sur eux. Donc n'hésitez pas, ça m'a beaucoup plu et je les conseille fortement.
Et souvenez-vous, dans la saison 1, Olivier avait lancé un concours pour connaître mon employeur, mon travail et mon employeur.
Oui,
Voilà.
J'ai lancé ce concours.
À l'occasion d'une vaste discussion sur Dominion et que j'y jouais entre midi et deux.
Oui, tout à fait.
Après réflexion, j'ai pas envie que mon employeur soit révélé. Ce qui pourrait se comprendre, on sait jamais, fois qu'il écoute.
Mais je ne sais pas, tu n'as donc pas le droit de jouer à Dominion pendant ta pause déjeuner.
Disons que j'ai peur que ça gêne un petit peu...
Bon. Ça se comprend.
Il y a des fois, il y a des esprits un peu rétrogrades et qui ne comprennent pas qu'on prenne pas sa pause entre midi et deux comme tout le monde.
Manger seulement.
Ouais, manger seulement. D'accord. Ou je sais pas, ou faire du shopping, ou je sais pas ce qu'ils font.
Ou surfer sur internet.
Ouais, ou faire du Half-Life, tu vois. Enfin, bref. Ouais. Non, il y a pas tout ça. Donc, on va plutôt s'en tenir à mon emploi. Et donc, effectivement, je travaille dans l'informatique. Et je donne du coup, pour moi, le gagnant, c'est Dédé Schutz. Qui a su bien préciser comment est-ce qu'il a mis son raisonnement
sur un
commentaire.
C'est la première personne à avoir participé et donné le... En fait, c'est lui qui a en premier su dire que tu travaillais dans l'informatique.
Ouais, et en plus, dans un commentaire où je lui ai demandé d'argumenter,
de
il a très bien argumenté. Il a vu tout juste.
Voilà, donc excusez-nous pour ce petit revirement de situation. Merci beaucoup, beaucoup à tous ceux qui ont participé, parce que vous avez été un certain nombre. Et puis donc, Dédé...
tu as gagné un super Zavandor.
Voilà.
Ça, c'est un top jeu. J'adore.
C'est un top jeu.
J'ai passé, il y a longtemps, c'était il y a 5 ans, j'ai passé des soirées à jouer à ça pendant les vacances. C'était exceptionnel.
Et comme nous allons nous voir à Essen, nous te le remettrons en main propre. Et maintenant, les brèves.
Et Olivier, je te propose de commencer avec une petite news qui concerne Bonanza.
Avec plaisir.
Alors Bonanza, c'est un petit jeu dont on a parlé une fois dans la saison 1. C'est un jeu d'échange, de négociation avec des cartes. Ça se joue entre 3 et 6 joueurs. C'est un jeu d'Uwe Rosenberg, qui est l'auteur d'Agricola, qui a été son plus gros succès avant Agricola, et qui a subi plein d'extensions. Et donc, ce dont on va parler, c'est deux illustrateurs belges qui ont découvert le jeu au printemps dernier, qui ont essayé d'acheter le jeu, qui ne l'ont pas trouvé. Ils devaient être en rupture à ce moment-là, là-bas. Et donc, du coup, ils ont décidé de fabriquer le leur. Donc, ils ont refait toutes les cartes, ils ont réinventé les jeux de mots, ils ont refait les illustrations. Parce que pour eux, faire les illustrations, c'est pas comme moi, hein. Ils savent bien mieux dessiner les bonhommes.
Donc, ils ont conservé les mécanismes, ils n'ont touché que aux illustrations.
C'est ça. Et donc, les deux illustrateurs en question, c'est Louise Jour et Augustin Lebon. Donc, ils ont refait toutes les illustrations des cartes et ils ont refait également, ils ont réinventé les noms. Donc, on retrouve, par exemple, Harry Cocktail, Harry Cornu, Harry Cosmos, Harry Copain, Harry Corsair, etc. Mais dans leurs illustrations, ils sont restés assez proches du jeu de base. Quelques mois après, ils ont montré leur jeu à un autre ami illustrateur, surnommé Moby Dick, et qui a trouvé le jeu vachement sympa. Et comme il aimait bien leurs illustrations, il a dit bah, « Moi, j'aimerais bien que vous me fassiez le même jeu pour moi. » Et ils ont dit « Non, t'as qu'à faire le tien. »
Salaud.
Et ouais, mais comme il est illustrateur aussi, il les a pris au mot et il a fait le sien. Et il est un petit peu plus graveleux, on va dire. Les illustrations sont un petit peu différentes, les jeux de mots aussi. Donc il y a par exemple Harry Corrida, Harry Choléra, Harry Cocu et Harry Coquin. Donc voilà, avec des illustrations un petit peu plus gore, un petit peu moins...
Familial.
Moins familial, exactement. Voilà, mais du coup, ça donne un style vraiment sympa. Je vous invite à aller découvrir tout ça sur leur site internet, dont on manquera pas de mettre les liens sur notre blog. Bonanza, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs de Uwe Rosenberg, édité en France par Gigamic, vendu à 8€, 8-10€ dans toutes les bonnes crèmeries.
Et puis je voulais vous parler d'un prix un peu spécial, c'est le Spiel des Barbes, le prix de Barbes 2011 qui est décerné par Yvie Collin qui a un blog depuis tous les ans depuis 6 ans. Alors c'est l'occasion de parler de pas mal de jeux abstraits puisque sa sélection est exclusivement abstraite. Donc certains jeux sont anciens par rapport à tous les prix qu'on voit actuellement qui sont basés sur une sélection de prix actuels. Certains jeux sont trouvables, d'autres pas. Quoi qu'il en soit, c'est différent et donc c'est intéressant. Je vous mettrai un lien vers son site sur Proxy Jeux.
D'autant que dans la sélection, il y a des jeux à fabriquer. Donc ils coûteront juste un petit peu de temps et puis éventuellement un petit doigt coupé par-ci par-là ou plus tard si vous n'êtes pas très adroit. D'ailleurs, pour la petite histoire, parce que Chunke das Legespiel, c'est un jeu qui doit dater de 2003, un truc comme ça, quand Michel Chart l'a mis en téléchargement sur son site. Il a ensuite été sélectionné quand Queen Games a lancé une collection de jeux pour deux joueurs. Peut-être pas que pour deux joueurs d'ailleurs. Mais bref, ils avaient édité celui-là sous le nom de Rathot ou Rattenscharf en allemand. Avec une grosse erreur dans l'édition, puisque les deux joueurs n'avaient pas le même nombre de rats en fait. Les rats comptent des points négatifs dans le jeu. Et le joueur vert et le joueur rouge n'avaient pas le même nombre de rats sur les tuiles dès le début. Ce qui est un petit peu inéquitable.
Ouais, c'est embêtant.
Donc, il vaut mieux aller chercher la petite version gratuite à télécharger et à découper et recoller sur du carton. C'est pas très dur.
Voilà, vous trouverez aussi Les Bâtisseurs, un jeu de Björn Jonsson et Daniel Johansson. Un jeu de majorité, des choses comme ça. À fabriquer vous-même.
Je vais le fabriquer, je vais tester ça.
Voilà. Et puis, on va continuer avec les prix qui sont décernés. On va reparler de Seven Wonders, bien entendu, avec The Dice Tower Gaming Awards. Donc, The Dice Tower, c'est un podcast. Ils en sont à leur 220e émission. Donc, monsieur Tom Vassell, qui est la personne qui anime le podcast, a été très, très prolifique sur Board Game Geek, a fait beaucoup de reviews. Et puis, il est passé au podcast. C'est très intéressant. Alors, il faut être vraiment fluente dans la langue de Pamela Anderson. Par contre, il y a pas mal d'intervenants. Les sujets sont variés, très intéressants, très creusés. Et chacun a sa spécialité, donc c'est bien. Enfin, je vous le conseille. Et donc, comme tous les ans, le podcast The Dice Tower fait son prix. Alors, on va les passer rapidement.
Ah oui, parce qu'il y en a plein.
Le meilleur jeu de l'année est
Seven Wonders d'Antoine Boza.
Quelle surprise.
Félicitations.
Quelle surprise. Entre autres, dans les nominés, on a Dominant Species, qui est un gros jeu d'évolution qui a l'air très très bien, mais très long. Et assez brain burner, je ne sais pas comment dire. Enfin,
ouais, ça fait fumer les cerveaux.
C'est
quoi.
Ça, tout à fait.
Ça, on te traduit mot à mot. D'accord.
Et puis Alien Frontiers, dont on a déjà parlé, qui est un jeu basé sur les dés et lancement de dés.
On en reparlera un peu plus tard.
Best Family Game, le jeu des familles. Yeah! Forbidden Island, bravo.
L'île interdite.
Ouais.
Olivier, il est un peu trop en anglais.
Tout à fait.
Donc c'est L'île interdite qui est édité en France par Cocktail Games.
Ouais, tout à fait. Puis quand on voit les nominés, bon, c'est tout à fait légitime. Et de toute façon.
Les autres nominés, oui.
On en a déjà parlé pour moi. Et on en reparlera. L'île interdite est un très très bon jeu. Ensuite, meilleur designer revient à Tori Niemann, le papa de Alien Frontiers. La meilleure réimpression.
Ouais, c'est Survive, Escape from Atlantis, de Julian Cortland-Smith, devant d'autres jeux comme Code 777, Dungeon Quest, La Guerre de l'Anneau, version collector, et Triumvirat.
Alors là, il y a des choses à dire.
Ouais. Survive et Code 777, en fait, ils ont été réédités par Stronghold Edition l'année dernière. Donc, c'est un éditeur new-yorkais qui s'est lancé dans le monde du jeu et qui a choisi, en fait, pour se lancer, du coup, de reprendre des vieux classiques du jeu et les ressortir. C'est comme ça que Code 777 est arrivé. C'est quand même un jeu d'Alex Randolph et Robert Abbott qui date début des années 80, j'aurais dit. Et donc, pour Survive, donc c'est une réédition d'un jeu alors qui a été paru avec de multiples extensions, si je me rappelle bien. Et donc, il a fait une petite sélection et c'est sorti donc l'année dernière. On a eu l'occasion de le tester à Essen l'année dernière. C'est un jeu, en fait, où les joueurs ont des personnages sur une île au centre qui va... faut s'échapper d'Atlantide. Donc, c'est Atlantide qui sombre. Il va falloir s'échapper et rejoindre le bord de la carte. À son tour de jeu, on peut déplacer son pion qui va donc quitter le continent et qui va tenter de prendre des bateaux ou de nager pour rejoindre des îles aux quatre coins du plateau. Sauf que dans la mer se trouvent des serpents de mer, des requins, les bateaux peuvent sombrer. Enfin, c'est oui. Un beau jeu d'enfoiré, voilà, familial en plus.
La façon dont tu présentes les choses, on dirait que le seul danger vienne de tous les monstres marins et les requins et les orques. En fin de compte, le plus grand danger, c'était voisin de table. C'est vraiment un jeu d'enfoiré, c'est incroyable. Et comme tu le dis, effectivement, on peut le jouer de différentes façons. On peut effectivement jouer avec la famille, mais c'est pas dans cette configuration-là que je le conseillerais le plus, en fait.
Alors moi, mes enfants sont très pervers. Je pense au
c'est
contraire
des
que c'est
bravo,
très...
hein, ouais, bravo.
Je pense que c'est le jeu parfait pour ma famille.
Donc à noter quand même au niveau des nominés, Code 777 d'Alex Randolph, qui est un jeu de déduction qui est très bon. Après, il y a une autre catégorie qui s'appelle Best Production Values Winner. Donc je pense que c'est le jeu
avec
pour
le
lequel...
matos.
Ouais, pour lequel tu en as pour ton argent. Non, c'est Dust Tactics. À noter Earth Reborn de Christophe Boulanger. Et à noter Horus Heresy. Donc Earth Reborn, c'est un jeu avec un mécanisme assez particulier, très innovant. Et Horus Heresy, c'est un wargame qui se passe dans le monde de Warhammer 40 000.
Oui, c'est ça.
La meilleure extension, elle est cernée Prospérité.
Pour Dominion. C'est vrai que c'est une excellente extension.
Donc dans les Dominions, on avait Dixit 2, et puis on avait deux premières extensions pour Thunderstone. Et puis la meilleure illustration
ouais, pour Seven Wonders
revient à Miguel Coimbra.
Voilà, bravo à lui.
Tout à fait.
Il faut dire que c'est vrai que les illustrations sont superbes.
Bon, il y a également, alors c'est un podcast américain, qui décerne également un prix pour le meilleur wargame, qui est décerné à Labyrinthe. Labyrinthe qui me fait penser à Twilight Struggle, mais matinée de lutte contre le terrorisme. On voit bien le pathos américain en fait dans ce jeu.
Ouais, enfin en tout cas une sélection de wargames qui fait plus penser à des wargames pour joueurs de jeux société en fait, puisqu'il a, dans les nominés il a aussi mis un Command Color Napoléonix. Donc c'est quand même plutôt des jeux, ça reste des jeux de société encore, on n'est pas dans le vrai wargame à ce niveau-là. Donc c'est pour des joueurs de jeux de société, c'est des jeux qui seront plus accessibles justement.
Ouais, c'était la question justement de Twilight Struggle, qui n'est pas vraiment un wargame et qui est à la croisée entre le jeu de société et le
Pour moi ça reste du jeu de société, ouais.
Donc voilà encore un prix, il y en a plein. Le plus intéressant, c'est pas celui qui a été nominé le jeu de l'année puisqu'on le connaît, mais c'est les autres, ça permet de voir autre chose et puis de s'intéresser aux jeux qui ont pu passer sous le radar et de faire un repêchage en fait. Je sais pas ce que t'en penses.
Bah oui, mais on le dit à chaque fois qu'on présente des prix.
Voilà. Si vous êtes assez à l'aise avec la langue de Shakespeare, n'hésitez pas à écouter un ou deux épisodes de Dice Tower.
Et puis Olivier, une petite, une brève rapide pour
une brève les... rapide,
une brève rapide, ouais. Sauf si tu me coupes, qui ravira tous les joueurs d'il y a 20 ans et qui lisait Casus Belli.
Les vieux.
Casus Belli, ouais, dans les années 80-90, c'était quasiment le seul magazine pour se tenir au courant de l'actualité du jeu. Internet n'était pas encore dans les demeures et on pouvait donc se tenir au courant des jeux de rôle, jeux de société, jeux de plateau. Enfin, il y avait de tout. Et on peut donc trouver sur Abandonware, en téléchargement, les premiers numéros de ce magazine culte.
Téléchargement légal.
Alors, ouais.
A priori.
En fait, le concept d'Abandonware, c'est qu'on met des vieux jeux, des vieux trucs, en fait, qui sont pas forcément encore libres de droit, mais ils les mettent en téléchargement, en précisant que si les ayants droit veulent les faire retirer, ils peuvent le faire, ils le retirent dans ces cas. Donc ouais. C'est quand même, on surfe à la limite de la légalité, mais en même temps, c'est sympa de faire ressurgir ces vieilles... des vieilleries comme ça, sinon on ne retrouverait jamais.
Ouais. Et en plus, étant donné qu'il ne s'agit que des plus vieux de la première édition, je ne pense pas que ça nuise beaucoup. Ça ne pourra faire que du bien et que de la promotion, de la publicité pour les nouveaux.
Alors par contre, je ne connais pas les nouveaux Casus Belli. Je pense qu'ils sont plus orientés jeux de rôle déjà. Je crois que l'équipe rédactionnelle a bien changé.
Comment ça, plus orienté jeux de rôle?
C'est que du jeu de rôle maintenant,
Casus Belli. C'était du jeu de rôle il y a 20 ans.
Bon, il y avait quand même une rubrique Wargame. C'est vrai qu'elle avait réduit au fil des temps, mais au début il y avait une rubrique Wargame. Il parlait aussi un petit peu des jeux de société.
Un petit peu.
Ouais, il y avait par exemple en septembre 93, un truc comme ça, il y a quand même la critique de Magic par Croc. Souvenez-vous.
Souvenons-nous. Ouais, enfin moi je me souviens plutôt des aides de jeu pour les meneurs, des scénarios, des choses comme ça. Alors c'est peut-être pas la première édition, c'est peut-être après. Mais effectivement, pour moi, le corps du sujet, c'était le jeu de rôle. Et après, t'avais une toute petite partie pour le jeu de plateau, en fait. C'était assez marginal.
Et pour ce numéro de rentrée, Olivier, je te propose qu'on échange sur les jeux auxquels on a joué cet été.
Oui, absolument. Parce que les vacances, c'est un moment où on a du temps. Et quand on a du temps, on peut jouer. Ça, c'est bien.
Bah, que faire d'autre ?
Tu commences ou je commence ?
Comme tu veux, on en fait un chacun son tour.
D'accord, vas-y.
Je commence. Alors, j'ai joué à Olympos. On en avait parlé dans un podcast. Tu avais amené le tien, tu l'avais présenté.
Tout à fait.
Ça m'a donc donné envie, j'ai acheté et donc j'y ai joué. Et effectivement, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai beaucoup aimé, beaucoup de choix, des parties qui ne se ressemblent jamais. Et en y jouant à deux, c'est assez... comment on va dire ? C'est brutal. À deux, les joueurs se mettent dessus facilement. Puisqu'en fait, au début de la partie, à deux joueurs, on bloque 12 territoires. Donc la carte est assez restreinte. Et on va vite aller prendre les territoires que l'adversaire a besoin pour ses développements. Etc.
Tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'interactivité dans ce jeu.
Voilà, donc très bien. Un jeu pas facile. La règle est simple, mais ensuite, à maîtriser, c'est pas simple.
Et tu y as joué uniquement à deux ?
Pour l'instant, ouais.
D'accord. Alors, moi, j'y ai joué à 2 et à 3. J'ai pas très envie d'y jouer à 4 parce que il faut bien regarder le jeu des autres. Et à 2, ben, tu es toujours en train de regarder le plateau de ton adversaire. À 3, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué de faire le choix dans la technologie que tu veux prendre pour avoir une merveille. C'est plus compliqué parce que tu te fais choper tes territoires, il y a encore plus d'interactivité, encore plus de lattage, et c'est hard. Mais c'est aussi un point positif. L'interactivité, elle est toujours présente, elle est importante, et ça fait le sel du jeu.
Donc Olympus, c'est un jeu de Flipke Arts, édité par Istari. Pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans, il faut compter à peu près une petite heure. Et on peut le trouver à peu près à 35€ dans toutes les boutiques.
Et pendant cet été, j'ai essayé le jeu Grand Cru. Grand Cru, c'est un jeu qui est paru l'année dernière chez Eggerspielt, par Ulrich Blum, un jeu d'économie. C'est donné à partir de 12 ans, 2 à 5 joueurs et environ 90 minutes, et vous pouvez le trouver pour à peu près 35€ dans toutes les bonnes boutiques. Le principe de Grand Cru, c'est que dans un premier temps, on va emprunter, on va construire une économie autour du vin, et ensuite, pendant toute la partie, l'idée, ça va être de pouvoir gagner de l'argent, assez d'argent pour pouvoir
rembourser tes emprunts.
Donc, il n'y avait pas beaucoup de jeux basés sur la vigne, le vin. Celui-là est très intéressant. Il faut pas s'attendre à ce que ce soit très léger. C'est quand même un jeu économique où il faut faire les bons choix. Par contre, les mécanismes sont super sympas, avec un mécanisme de vieillissement du vin. C'est-à-dire que tu peux miser sur une vente à court terme, mais avec des vins qui sont jeunes, et donc qui seront pas chers. Ou alors avec des cépages qui seront nobles, que tu vas vendre plus cher, mais forcément dans plus longtemps. Donc après, il faut trouver un équilibre. Il faut arriver à gagner beaucoup d'argent. Et ça se chicane, c'est très interactif. Et vraiment, ça a été une très très belle découverte. J'ai envie d'y rejouer parce qu'on n'a fait qu'une seule partie à 3. Donc je pense que contrairement à Olympus, où le plateau est restreint, je pense qu'on avait quand même pas mal de place et que l'interaction était limitée, même si elle était bien présente. Et je pense que comme il y a un système d'enchères, tout est mis aux enchères et les actions sont faites l'une après l'autre. C'est-à-dire que je fais une action, tu vas faire une action, et tous les autres joueurs vont faire une action. C'est quand il n'y a que 3 joueurs, on arrive à jouer encore un tout petit peu dans son coin, et je pense que ça mérite de jouer au moins à 4 joueurs.
De mon côté, Olivier, moi j'ai joué à Vinos, justement l'autre jeu du vin qui est sorti à Essen l'année dernière. Donc dans Vinos, c'est un jeu assez costaud également, d'un auteur portugais, Vital Lacerda. C'est sorti en français, maintenant c'est édité par Yellow. Il faut compter... C'est marqué sur la boîte plus de 2 heures à 2h30 à 4 joueurs. C'est de 2 à 4 en fait, donc c'est long. À 2 en fait, ça se joue une fois qu'on a bien imprégné, c'est bien imprégné des règles quand même, parce qu'il y a presque une trentaine de pages. 24 pages peut-être.
30 pages
24 pages, mais c'est coupé, il y a les règles, enfin il y a des exemples à côté. Mais c'est quand même assez fastidieux à lire. Et expliquer, hein, l'explication des règles peut prendre un peu de temps. Mais une fois qu'à 2, ça se tient même pas 3/4 d'heure un jeu. Donc c'est pareil, on va avoir une des exploitations de vin, donc ça se passe au Portugal, ici c'est les vins portugais. On va gérer des domaines, donc on va gérer des crus, il y a plusieurs stratégies possibles. Le jeu se déroule sur 6 ans, chaque année on fait 2 actions, c'est-à-dire qu'une partie, il y a 12 actions maximum. C'est pas beaucoup 12 actions. Il va falloir à la fois produire son vin, il peut vieillir en cave également comme dans Grand Cru. On peut vendre son vin, l'exporter à l'étranger et présenter ses vins à des concours. Plusieurs façons de gagner des points de victoire. Très difficile au niveau argent à gérer. Parce qu'en fait, on a du cash et on peut aller le poser à la banque. Ou quand on fait une vente, l'argent ne va pas dans notre cash, il va d'abord à la banque. Donc, c'est une action d'aller à la banque et gérer. Ça, déjà, c'est à prendre en compte. Le souci du jeu, c'est qu'il y a plein de petites règles, plein de petits détails. La façon dont on présente un vin à un concours, comment on l'exporte, etc. Beaucoup de choix. Des premières parties sont fastidieuses, quand même. Faut l'avouer, on l'a fait à 2, je pense que c'est mieux, avant de se frotter au jeu à 4, qui doit être très difficile.
Donc un jeu sur le même thème que Grand Cru, mais sans doute plus lourd, plus fastidieux à jouer, ou à au moins à rentrer dedans que Grand Cru, parce que moi j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Une fois que le mécanisme, ton moteur de revenu est en place, et que t'as décidé ta stratégie, ça marche.
Non, dans Vino, j'ai eu des parties où je me suis retrouvé à sec niveau argent, je me suis débrouillé autrement pour marquer des points de victoire. Mais c'est pas simple. Il faut plusieurs parties avant de pouvoir maîtriser tous les aspects, etc. Le problème, c'est qu'on a que 12 actions, c'est pas beaucoup.
Ouais, c'est la différence aussi. Dans le Grand Cru, tu peux continuer à prendre des emprunts autant que tu veux. Ça sera le plus t'en prends et le plus ça va être compliqué de les rembourser. Par contre, tu n'as pas ce stress. Le stress ne plus avoir
d'argent. Dans Vino Sotti, tu peux emprunter, mais c'est encore plus. Le remboursement peut être fatal. Hein. Donc, bref. Donc Vino, c'est un jeu de Vital Lacerda chez Yellow en français pour 2 à 4 joueurs. à partir de 10 ans, il faut compter 2h à 2h30 à 4, moins d'une heure à 2.
On reparle du JCE du Seigneur des Anneaux ?
Allez, bah vas-y.
Ça fait longtemps. Donc la première extension, La Poursuite de Gollum, est sortie pour le JCE du Seigneur des Anneaux. Je suis un petit peu déçu. Ma première impression quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu la publicité, enfin, il y a un tout petit bout de règle et puis surtout il y a la publicité sur les 6 extensions qui vont constituer le cycle. J'ai l'impression que je vais donner 70 € à Edge pour avoir en fait un set complet. Et je suis un petit peu déçu pour ça parce que je pensais que j'allais avoir plein de cartes qui allaient pouvoir enrichir un petit peu mes decks, et ce n'est pas tout à fait vrai. Donc on a un nouveau scénario qui est très bien, qui est complètement différent, puisqu'il utilise beaucoup de lieux, et en fin de compte, il faut vraiment construire. La construction doit être adaptée au scénario. Donc, jusque-là, aucun problème. On a un nouveau héros, qui est Bilbo, un seul. C'est un peu peu. Et surtout, donc, on a d'autres decks de danger, d'ombre. Ce qui amène aussi, ce qui va enrichir les rencontres, et puis ce qui va permettre justement de donner du corps au scénario. Et puis plein de cartes différentes, et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que tu vas avoir des cartes qui vont interagir avec des cartes qui se trouvent en peu d'exemplaires dans le jeu de base, et tu sens qu'en fait ils veulent construire quelque chose, ils veulent te permettre de faire des decks à thème. Sur le Rouen, sur les aigles, sur ceci, sur cela, mais tu ne peux pas actuellement. C'est-à-dire que tu ne vas pas les mettre, c'est forcément des cartes que tu vas mettre de côté en attendant que les autres extensions vont arriver. C'est un petit peu frustrant. Donc, ça m'a permis de retourner avec plaisir sur le JCE. C'est un peu... Je pense que là où ils sont manqués, c'est que ça aurait dû sortir un mois après le jeu de base, et qu'en fait, ils ont mis longtemps pour sortir la première extension. Et en fait, le souffle est retombé, et puis là, voilà. Donc, je suis mi-figue, mi-raisin, c'est bien, mais ça sera bien quand on aura fini le cycle. Donc, ça sort chez Edge Entertainment, 12 €, et ne comptez pas 12 €, comptez plutôt 70 € quand vous aurez les 6.
Ok, de mon côté, j'ai craqué au début de l'été pour Mondo. Alors, Mondo, c'est un jeu qui était sorti pour l'instant qu'en allemand chez Pegasus Spiel, qui doit arriver en français chez Philosophia bientôt, un jeu de Michel Chartres qui se joue très rapidement. Alors il joue en 3 manches normalement, une manche dure 5 à 7 minutes en fonction du niveau de difficulté, donc un jeu assez rapide. C'est un jeu dans lequel on va construire son monde. Alors tout le monde joue en même temps, c'est chacun a un plateau devant lui qui représente son monde, et puis il y a des tuiles paysages. Donc il y a plein de tuiles qui sont au centre de la table, et les joueurs jouent en même temps et doivent tous piocher les tuiles et fabriquer leur monde. Donc il y a une compétition, c'est une course. Il faut aller le plus vite, puisqu'évidemment, le premier qui aura terminé marquera plus de points.
Ça met la pression. Hein.
Voilà, il y a ça. Ouais, maintenant, je joue avec le cube, donc on a plus le tic-tac. Ouais. Donc, l'intérêt du jeu, c'est qu'il faut construire vite. Il y a des contraintes, évidemment, puisqu'il faut que les tuiles se disent au mieux possible. Il faut fermer des zones. Il y a des zones de plaine, de désert ou de forêt, et il faut réussir à les fermer correctement pour marquer des points. Une zone bien fermée marque 2 points en fin de partie. Des tuiles aussi ont des fois des animaux, donc on va essayer de prendre les animaux. On marque des malus pour chaque tuile qui ne se dit pas correctement avec sa voisine, et quand on sait qu'il faut jouer tout ça en moins de 5 minutes, ça devient une sacrée course, et tout est là-dedans. Il faut choisir les tuiles le plus rapidement possible, et à la fin, des fois, il y a des sacrifices, on ne peut pas tout faire. Et souvent c'est ça, le plateau au début on commence bien, c'est super, et à la fin ça devient un peu tordu. L'intérêt, c'est que ça peut jouer avec des enfants à partir de 6 ans, 6-7 ans, on va dire 7 ans. En dessous c'est jouable, mais il faut les aider. Voilà, et que les parties sont rapides, hein, on peut faire qu'une manche, on n'est pas obligé de faire plusieurs manches, c'est inutile. Et il y a plein d'autres variantes qui viennent rajouter des points supplémentaires si on a tel ou tel type d'animaux, etc. Donc pas mal de possibilités. Peut-être qu'après, le jeu, au bout d'une dizaine de parties, se renouvelle moins. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Parce que c'est toujours plaisir de jouer en fait avec les enfants.
Combien de parties est-ce que tu as fait ?
Ouais, je sais pas, une bonne quinzaine.
D'accord, tu as quand même beaucoup joué.
Ouais, bah, c'est rapide. Tu fais une partie en moins de 10 minutes, donc c'est bien. Donc Mondo, c'est Michel Chartres. Donc ça arrive bientôt chez Philosophia, à 30 €. Donc pour 2 à 4 joueurs, Enfin, ils mettent 1 à 4 joueurs, il y a une variante 1 joueur. Donc 20 à 30 minutes si vous jouez en 3 manches, sinon moins de 10 minutes pour une manche à partir de 8 ans.
Oui, c'est comme Olympos. C'est-à-dire qu'Olympos est donné à la base pour 3 à 5 joueurs et il y a une variante pour 2 joueurs.
C'est ça.
Et une variante qui marche en fait très bien. Et puis j'ai réessayé Loyang. Loyang que j'ai acheté il y a 2 ans, je crois, que j'avais essayé puis j'avais laissé un petit peu de côté. J'ai réessayé puisque j'avais un petit peu de temps. C'est un jeu de négoce où il faut miser sur certains légumes qu'on va revendre soit à des clients occasionnels, soit à des clients réguliers.
Il faut remplir des contrats, ouais.
Voilà, c'est ça. En fait, je suis un petit peu déçu parce que j'ai voulu lui donner sa chance, puis après lui redonner sa chance, et je veux encore lui donner sa chance. Je me dis qu'il faut que je réessaye dans pas longtemps et puis que je creuse. Mais voilà, je suis un petit peu perplexe devant ce jeu. Les mécanismes tournent très bien, ça marche très bien. Seul petit problème, c'est long. Enfin, ça c'est pour moi c'est trop long pour ce que c'est dans un premier temps. C'est pas voilà. Et tu voulais dire quelque chose peut-être.
Oui, en fait, il est sorti en français. Toi, tu avais la version allemande.
Aux portes de Loyang.
Mais aux portes de Loyang est sorti donc en français. Quand même. Moi, c'est un jeu que j'ai revendu. Hein. Personnellement, je l'ai pas gardé parce que moi, j'aime pas le. Le problème, c'est qu'on renouvelle sa main de carte à chaque tour. Donc ça permet pas de bâtir une stratégie très forte sur le long terme. Par contre, j'avais bien mis le système de points de victoire en fait, où à chaque tour on va, si on a bien rempli, je sais plus, il y a une règle où en fait on avance systématiquement d'une case, c'est automatique, et pour avancer d'une case de plus, donc en fait on commence à 1, 2, 3, 4, ça avance tout doucement. Et pour avancer d'une case en plus, il faut payer des ressources ou quelque chose comme ça.
On a une échelle en fait de score qui va de 1 à 20. On paye avec de l'argent sur sa progression sur cette échelle de score. Merci. La première progression coûte toujours un sou. Et les suivantes sont en fonction du palier sur lequel tu te trouves. Par exemple, pour aller de 1 à 3, tu vas payer 1 pour la première. Après, tu seras devant le 2, donc ça sera 2 sous. Et le 3, ça sera 3 sous. Donc tu vas payer 1 plus 2 plus 3. Si tu es devant le 15 et que tu vas aller à 17, tu vas payer 1 pour aller à 16 et 17 pour aller à 17. Donc 18 en tout.
Ah, c'est ça. Et c'est là qu'était le système intelligent du jeu. Moi, j'aimais beaucoup ce côté-là. De quoi ?
Le système intelligent du jeu. Ça montre un petit peu.
C'est la vraie innovation dans le jeu, je trouve, c'est celle-là.
Ouais, tout à fait.
Cette façon-là. Parce que du coup, il y a la pression. Hein. Dès qu'un joueur a réussi à payer une fois, les autres vont devoir se mettre au niveau. Mais j'ai trouvé que le reste.
Ah, c'est l'heure. Ça, c'était pour info, c'était le minuteur de chez Mondo. Donc, aux portes de Loyang, ça coûte à peu près 45 euros. De 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et pas moins de 120 minutes, c'est long.
Allez, j'enchaîne avec Rallyman. Rallyman, c'est un jeu de course, de rallye, évidemment, comme son nom l'indique. Alors, si je dis que c'est un jeu où on lance des dés et que pour passer les virages, il y a des vitesses maximum, tout de suite, ça fait penser à Formule D.
Formule D.
Et ouais.
Formula D, maintenant.
Ouais, Formula D, maintenant. Qui était sorti il y a presque 20 ans maintenant. Et en fait, c'est pour ça que je me suis toujours freiné à l'achat. Je me suis dit, c'est déjà vu des jeux avec des dés et machin, des jeux de voiture avec des dés. Et puis, à force de la bonne presse du jeu, j'ai quand même craqué. Et donc, j'ai acheté pour les vacances. Et vraiment, ça a été une super découverte. Alors, qu'est-ce qui fait la force en fait de Rallyman ? Donc, c'est un jeu de rallye, donc ça se joue en 3 spéciales. Mais c'est pareil, on n'est pas obligé de jouer les 3 manches. On peut jouer qu'une manche si on veut, si on n'a pas trop de temps. À deux, ou même à deux, une manche, on va compter une vingtaine de minutes. Même pas, non. Ouais. On va dire entre 10 et 15 minutes à deux, et ça monte à 25 minutes à quatre sur une, pour une spéciale.
C'est court.
Donc c'est court. Si on fait les 3 spéciales, c'est un petit peu plus long. L'idée, en fait, c'est que on va. Donc la spéciale, donc le plateau, se monte avec 4 éléments qui permettent de faire des milliers de circuits différents. Il y a un côté soleil, il y a un côté neige pour le mode un peu plus expérimenté.
Parce que tu as des règles spéciales pour la conduite sur glace.
Ouais, tu peux choisir tes pneus en fait. Mais c'est les variantes, on va pas en parler tout de suite. L'idée donc, sur la route, sur le parcours évidemment, il y a des lignes droites et les virages qui indiquent des vitesses maximum à passer. On peut les passer en dérapage au large, on peut les prendre en vitesse un peu plus réduite ou bien on peut même les prendre parfois à la corde au risque et péril de crever. La crevaison peut coûter assez cher ensuite sur le reste du parcours.
Et comme on dit, partir, c'est crever un pneu.
Merveilleux. Donc, le principe, on part avec une vitesse. Ensuite, on va pouvoir monter ou descendre les rapports en lançant des dés. Donc, à chaque vitesse correspond un dé. et on avance systématiquement d'une case. Alors pourquoi lancer le dé ? Parce qu'en fait sur le dé, il peut y avoir un symbole, un petit panneau attention.
Hartung ?
Ouais. Alors on a à peu près une chance sur 3 de sortir un panneau attention. Et au bout de 3 attention, c'est la sortie de route. Alors aïe, ça fait mal.
3 avertissements, un blâme.
C'est ça. Mais là, le blâme, il peut faire mal. Hein. La sortie de route peut être tout de suite pénalisante. En fonction, donc c'est aléatoire. Par contre, on pioche une carte qui nous dit où est-ce qu'on sort. Et en fonction du décor à cet endroit-là, on va plus ou moins casser sa voiture. Quand on a de la chance, on fait juste un tête-à-queue. C'est là qu'on s'en sort le mieux. Donc, il y a cette idée de lancer les dés et que chaque dé se fasse avec une case. Contrairement à Formule D, où on est complètement au hasard du nombre de cases par rapport au dé. Donc, c'est de la proba. Ici, la seule proba, c'est savoir si on va sortir de la route ou pas. Enfin, quelle prise de risque on va faire. C'est plutôt un can-stop. Et on va ensuite, la vitesse à laquelle on termine son tour, on pioche une carte qui indique le temps qu'on fait. Si je termine mon tour en cinquième vitesse, ça me coûtera 10 secondes. Si je termine mon tour en première vitesse, ça me coûtera 50 secondes.
Oh, d'accord.
À la fin de la spéciale, on fait la somme du coût des temps. Et c'est celui qui a mis le moins de temps qui arrive.
Alors, est-ce que ça se joue tous les joueurs en même temps ? Ou alors je joue, puis après tu vas jouer ?
Alors en fait non, ça fait un petit peu comme un rallye. C'est-à-dire le premier part, il va jouer un certain nombre de coups d'affilée. Et ensuite, le deuxième fait un coup. Et ensuite, c'est chacun son tour. Donc, le premier joueur va jouer, par exemple, 4 coups d'affilée. Mais à la fin de la partie, il va attendre que les derniers arrivent.
Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas cette notion de blocage que tu peux retrouver dans certains jeux de course.
Ça arrive parfois parce que un joueur derrière peut très bien mieux passer certains virages et arriver au niveau, voire même dépasser un joueur qui le précède.
Est-ce que tu peux faire
là,
des crasses?
Là, c'est le drame. Bah là, ça peut être le drame pour le passage dans les virages. Je me rappelle comme ça, juste avant une arrivée, de m'être fait bloquer dans un virage et de me retrouver en sortie de route assez pénalisante.
D'accord. Donc tu peux. Ça, on peut se chicaner là.
Un petit peu. C'est pas évident. Il y a autre chose, mais qui arrive après. Déjà, de toute façon, il y a une pression. Hein. C'est-à-dire que on se rend bien compte si tel ou tel joueur arrive à faire mieux que nous et qu'il peut nous mettre la pression. Et après, quand on passe en mode expérimenté, on peut décider de il y a des techniques qui s'appellent la grosse attaque et puis lâcher les secondes qui permettent de mieux jouer sur la probabilité, etc. On peut essayer, par exemple, donc la grosse attaque, si on prend tous les dés, on les lance tous en même temps. Donc beaucoup plus gros risque d'avoir les 3 panneaux attention. Donc plus de risque pour la sortie de route. Mais par contre, pour chaque dé lancé, on gagne une seconde sur le temps final.
D'accord, tu arsouilles en fait.
Ouais, enfin, du coup.
Techniquement, le mot technique, c'est tu arsouilles. Voilà. Ok, donc tu... C'est ton coup de cœur de l'été, ça ?
Gros coup de cœur de l'été, ouais, carrément. D'accord. Donc, Rallyman, un jeu de Jean-Christophe Bouvier, donc auteur, éditeur français, pour 1 à 4 joueurs, à partir de 9 ans, une heure, il faut compter une heure, et c'est vendu une trentaine d'euros. Voilà, il en est déjà à la 3e édition. Donc
c'est que ça se vend bien.
C'est que ça marche bien, et c'est tout à fait mérité.
Dans les jeux qui... Enfin, moi, mon coup de cœur complètement différent, c'est SNCF. Enfin, c'est Paris Connection, le jeu auquel tu m'as fait jouer en début d'été. C'est un jeu qui est très simple, puisque à son tour, on va d'abord avoir derrière son paravent des cubes représentant des lignes de voie ferrée. Ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être des routes, ça pourrait être n'importe quoi. Donc derrière son paravent, on va avoir déjà quelques cubes représentant des actions de compagnies ferroviaires. À son tour, on va pouvoir prendre des actions de ces mêmes compagnies, ou alors étendre les lignes. Et c'est simple, c'est efficace, ça se joue une demi-heure, 20 minutes, ouais. Un quart d'heure, ça dépend de la férocité de ses adversaires et de leur volonté de couper court à la situation ou pas. C'est pas très familial, c'est-à-dire que ça se joue plutôt entre adultes, parce que c'est quand même assez,
les choix sont
assez techniques. Ouais. Mais pas si dur que ça, c'est-à-dire que et puis en plus, étant donné que les parties sont courtes, on peut en refaire une après, elle aurait pas du tout la même gueule, on va repartir sur quelque chose de complètement différent. Enfin, vraiment, c'est Paris Connection, c'est un petit peu cher, c'est 45 €, surtout pour un si petit jeu, c'est ça qui est un peu bizarre. C'est édité chez Queen Games, de 3 à 6 joueurs, et à partir de 10 ans. En général, j'aurais tendance à dire on peut y jouer plutôt un peu avant, mais là non, il faut vraiment qu'il joue avec... voilà, tout à fait. Il faut vraiment jouer avec soit des jeunes adultes, soit des jeunes adultes, soit avec des adultes. Voilà.
Je voulais parler de Rallyman, c'est mon grand coup de cœur, et j'ai aussi ma grande déception. Ma grande déception, c'est Alien Frontiers. On en a parlé, il a eu des prix, il est très aimé outre-Atlantique. C'est un jeu où on lance les dés et on peut faire des actions. Le problème, c'est que on est vraiment dépendant du résultat des dés. Et ça peut faire très très mal. En fait, pour moi, il y a un défaut dans le jeu, c'est le début de la partie qui permet au début, on commence qu'avec 3 vaisseaux et pour avoir plus de vaisseaux, il va falloir faire un double. Donc déjà sur 3D, ce qui est pas facile. Et il va falloir pouvoir aller se placer à ce moment-là sur le plateau. Il faut qu'il y ait un emplacement libre, qu'il n'y ait pas d'autres joueurs qui soient venus à ce moment-là. J'ai vu des débuts de partie un peu poussifs pour certains joueurs parce que quand ils faisaient les doubles, ah ben les places elles étaient occupées et ils pouvaient donc pas se développer.
Tout à fait, il faut faire un double et que la partie, que l'emplacement soit libre.
Et c'est pour moi, c'est très important de pouvoir commencer là-dessus.
Tout à fait.
Voilà. Donc déception.
Ouais, je trouve que c'est un peu beaucoup pour ce que c'est.
C'est ça, ouais.
C'est-à-dire il y a plein de choses. C'est vraiment riche, mais par contre, c'est qu'un jeu de dés en fait. Et je m'en ferais plus faire un King of Tokyo ou plutôt qu'un Ligne de Frontières.
C'est dans la lignée des King of Tokyo, etc. 3 et un cran dessus dans le genre lancer de dés.
On a joué, nous les adultes on a joué, puis on a aussi beaucoup joué avec les enfants. On va pas trop s'étendre parce qu'il y a plein de choses. On a joué à Wasabi, on a joué on a joué à Kings of Tokyo. Et puis, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup sorti, alors deux choses. D'abord avec mon grand, c'est Mémoire 44. On a fait d'innombrables parties de Mémoire 44. Alors, contrairement à ce qu'on vous avait dit la dernière fois, lorsqu'on a fait le dossier sur... oui, c'était la dernière fois. Sur les jeux de dés, il y a pas mal de choses qui se trouvent encore. Donc, j'ai pas trouvé l'air pack, mais il y a énormément d'extensions qui sont toujours trouvables, donc ça c'est une bonne nouvelle. Puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que mon grand qui a 9 ans, qui a eu 9 ans cet été, a complètement accroché. On avait essayé il y a un an et demi, et ça lui plaisait pas, et là il est en plein dans la tactique. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est que ce sont de vraies batailles, donc il y a un côté vraiment très asymétrique. Normalement on devrait y jouer en aller-retour. Là, en l'occurrence, on avait envie de découvrir des situations complètement différentes, donc on y a joué en tirant au hasard ou pas. C'est-à-dire que j'ai pas voulu complètement le dégoûter, et donc j'ai parfois choisi un scénario qui était plutôt en sa faveur. Et même, je me souviens d'un soir où il avait perdu ses deux scénarios, et où ça s'était pas très bien passé, où il était super content d'avoir joué à ça. Donc j'ai redécouvert Mémoire 44 et vraiment, on est à fond dedans avec le grand. Et puis, que ce soit avec le grand et avec le petit, qui est petit, qui a 6 ans et demi, on a joué à L'Île Interdite. Alors L'Île Interdite, ça s'est plus ou moins bien passé parce qu'il faut apprendre à coopérer, il faut apprendre à s'écouter, il faut apprendre à ne pas prendre de décision pour les autres, et ça c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est effectivement plus simple que Pandémie. Pour moi, Pandémie, c'était une référence. Et en fin de compte, la fois où j'avais essayé L'Île Interdite, j'avais pas été très... ça m'avait laissé un petit peu sur ma faim. Je me suis dit que ça manquait de quelque chose. En l'occurrence, en jouant à 3, on joue facilement en élite ou en... Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, on se met la plus grosse pression possible pour pouvoir... jouer avec un petit peu de pression parce que bon, c'est quand même un jeu très familial.
Même avec les enfants, t'as mis la pression max.
Ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, t'as deux choses. T'as le fait que l'île va s'engloutir, donc tu vas avoir certaines parties qui ne seront plus accessibles, mais ça tu le gères parce qu'il y a des parties que tu peux, des
ouais,
parties de l'île que
cool.
Voilà, dont tu ne tiens même pas compte parce que de toute façon ça ne t'intéresse pas. Et puis t'as le temps, c'est-à-dire qu'il faut de toute façon que en deux pioches tu puisses récupérer tous tes trésors. Et c'est là, en fait, la vraie pression. C'est pas forcément au niveau de l'assèchement des terrains, mais c'est plutôt au niveau de la pioche. Il faut finir vite. Voilà, donc pour moi, vraiment, je l'ai dit, puis je le redis, L'Île Interdite, au niveau familial, au niveau jeu d'entrée de gamme pour les non-joueurs, même les adultes, c'est très très bien. Et il faut pas s'en priver. Donc Mémoire 44, c'est une petite cinquantaine d'euros, ça se joue à 2, ça peut se jouer 4 avec les cartes Overlord. C'est pas très long, le scénario fait 60 minutes, il y a une mise en place qui est quand même assez importante, 10 à 15 minutes, et les extensions, faut compter à peu près 25 euros. Et en ce qui concerne L'Île Interdite, c'est à peu près 25 euros, 2 à 4 joueurs, 30 minutes à partir de 10 ans, mais vous pouvez quand même initier des enfants un peu plus petits. Et je le conseille pour tout le monde de toute façon.
Et de mon côté avec les enfants, donc j'avais acheté Wasabi, évidemment. Après,
j'adore.
Voilà. Et donc, bah, finalement, les enfants l'ont tout de suite adopté également. Même ma fille de 5 ans, qui n'arrive pas forcément à lire les cartes, mais les illustrations lui ont permis rapidement de comprendre ce que font chaque carte. Et donc, c'est assez fun. Après, par contre, bah, des fois, un joueur gagne vite, et mes enfants aiment bien aller jusqu'au dernier joueur. Donc, celui qui a gagné, des fois, bah, il tourne un petit peu en rond pendant que les autres, pendant 10 minutes, continuent à s'affronter. Mais ça a été un gros coup de cœur des enfants, évidemment.
Ouais, par contre, une chose dont je n'avais absolument pas fait attention et que j'ai réalisé cet été, c'est que les illustrations sont vraiment très très moches pour vos amis.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est, je me suis fait une réflexion.
Bon, on passe dessus et c'est pas très très grave parce que de toute façon, on regarde plus les dés que les cartes. Mais bon, voilà. Puis il y en a qui aiment, c'est une question de goût.
On va dire ça. Alors, ensuite, en fait, l'autre jeu que j'ai eu du mal à procurer avant le départ en vacances, c'était Sherlock. Il est arrivé vraiment tout fin juillet, reporté plusieurs fois par l'éditeur. J'ai eu du mal donc à le trouver en boutique. Sherlock, c'est un petit jeu de cartes d'Arnaud Urbon chez Illopelli. Ça vaut une dizaine d'euros, 12-13 euros pour 2 à 5 joueurs. Le principe, donc, avec son nom Sherlock, c'est Sherlock Holmes qui enquête. Moriarty donc, a commis un vol. Il va falloir trouver quel est son complice dans le vol en interrogeant des témoins. Alors en fait, c'est juste un principe de mémoire. On va retourner des cartes témoignages pour voir quels sont les pour éliminer au fur et à mesure les suspects. Le mélange, c'est donc du mémoire et puis de la déduction. La difficulté vient que donc il y a un mode coopératif qui fait que on a le droit à 9 tentatives pour éliminer au fur et à mesure les cartes. En fait, on retourne d'abord 2 cartes. Si elles sont identiques, si elle montre le même suspect, on a le droit d'en retourner une troisième. Si c'est à nouveau le même suspect, on retire ces cartes-là du jeu. Quand il ne reste plus que trois cartes sur le plateau, c'est lui le coupable. Donc il y a le petit côté déduction qu'il va falloir trouver également, puisqu'en fonction, chaque témoin n'a vu le suspect qu'une fois, etc. Donc il y a le petit côté pour éliminer rapidement les possibilités parmi toutes les cartes qui restent pour trouver les bons suspects. Ça marche très bien avec les enfants. Il faut le guider un petit peu dans les choix, mais dans la réflexion, mais ils ont beaucoup aimé. Et bah voilà, c'est le côté réflexion qui va avec le memory qui marche très bien. Entre adultes, je pense que l'intérêt du jeu est bien plus limité parce que c'est les adultes ont vite compris comment on faisait les déductions.
Donc enfant plutôt 7-8 ans.
Ouais, vers 7-8 ans, ouais. Ouais, ma fille de 5 ans aime bien y jouer, mais c'est encore plus du. Enfin, il faut guider vraiment la réflexion, mais ça arrive petit à petit. Voilà, donc c'est plus un jeu comme ça, mais vu que c'est un petit budget, c'est 12-13 euros, c'est parfait. En plus, vu que c'est un petit format de jeu de cartes, ça pourrait presque tenir dans la poche, enfin, ça se glisse n'importe où pour les voyages.
Et vous, à quoi est-ce que vous avez joué? Bah, écoutez, allez sur notre site, mettez un petit commentaire, dites-nous à quoi vous avez joué, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, parce que dans la vie, on n'aime pas tout. Et puis ça nous fera bien plaisir, ça permettra de continuer ce débat sur notre site. On va parler un petit peu de ce qui va se passer près de chez vous. Alors près de chez nous d'abord, le 4 septembre prochain, le dimanche, aura lieu Tous en Jeu. Donc Tous en Jeu, c'est la fin d'un festival gratuit lyonnais qui s'appelle Tout le monde dehors. Et la particularité de cette journée du 4 septembre, c'est qu'elle va regrouper sur les berges du Rhône un nombre important d'acteurs du monde ludique. Donc on va trouver du go, on va trouver des échecs, on va trouver un atelier de création de jeux de société, on va trouver l'association Moi je m'en fous, je triche, et on va pouvoir d'abord essayer des jeux de société. Donc pour les jeux anciens, le go, les échecs, il y aura des initiations tout au long de la journée. La triche organisera des parties surdimensionnées, par exemple Tokyo Train, choses comme ça, donc voilà. Et puis vous pourrez de toute façon tout au long de la journée jouer à des jeux de société, rencontrer également des auteurs. On a parlé tout à l'heure de Rallyman, l'auteur sera sur place donc le 4 septembre à Lyon, dans un cadre qui est vraiment très agréable. J'espère qu'il va faire beau parce que l'année dernière c'était vraiment très très agréable sur les quais du Rhône, qui a été refait il n'y a pas très très longtemps, et c'est vraiment très agréable.
C'est gratuit et c'est ouvert, c'est pour faire découvrir le jeu au public. Et pour nos amis de Bourgogne, je vais vous présenter le festival, on va dire,
comment ils appellent
ça, festival, ouais, on appelle ça festival, Ludimania. Il s'appelle même le festival d'un monde qui joue. Ça se déroule à Saint-Apollinaire, à l'espace Taboureau. C'est le samedi 10 et dimanche 11 septembre, de 11h à 19h. Donc l'entrée est gratuite et ça permet de découvrir tout un paquet de jeux, évidemment. Ils annoncent plus de 500 jeux disponibles, avec des jeux surdimensionnés, des jeux traditionnels. Ils ont également un prix du public, des jeux de figurines, du Magic. Bref, le jeu dans sous toutes ses formes sera présent à ce festival.
Et si vous êtes en région parisienne le week-end du 17 septembre, n'hésitez pas à vous rendre à l'Asmodée. L'Asmodée, c'est un salon, un événement organisé par Asmodée, mais qui va accueillir un certain nombre d'éditeurs et d'auteurs connus. Donc on va avoir Ludicali, on va avoir Istari, on va avoir des gens comme ça, avec plein de surprises, plein de belles choses. Ça se passe le 17. Alors, deux choses un peu particulières pour cet événement. D'abord, les entrées ne se font que sur invitation. Mais a priori, les invitations se trouvent encore, à l'heure où vous allez écouter le podcast, assez facilement. Je vous envoie sur le site de TrickTrack, où vous aurez un formulaire que vous pourrez remplir pour demander des places. Et il y a au moins deux autres sites qui en proposent. C'est le site à la carte, c'est le blog de Grunt. Je vous invite à vous rendre sur le blog à la carte pour deux choses. D'abord parce que le blog en lui-même est intéressant. C'est un site d'analyse de jeux de cartes entre autres. Et la deuxième chose, c'est parce que le concours qui a été organisé par Grunt est assez intéressant. Donc à l'heure où vous allez écouter ce podcast, vous aurez également la solution du concours. Mais essayez parce que c'est vraiment sympa, c'est un beau jeu. Et puis, c'est Yann Dreyf qui met en ligne des explications des règles de jeu en vidéo, qui propose également des places. Vous arriverez, je pense, à en trouver facilement si ça vous intéresse. Même si c'est un petit peu tard, vous devriez écouter ce podcast à la fin du mois d'août ou tout début septembre. Et j'espère qu'il restera encore des places. Deuxième chose, la chose la plus intéressante dont il faut parler, c'est qu'il y aura pendant cette manifestation une vente aux enchères. Alors, on va trouver des choses diverses et variées. Vous pourrez essayer d'enchérir sur l'une des dernières copies du jeu Caius Deluxe. Vous pourrez également essayer de gagner en enchérissant une session de jeu de rôle animé menée par Croc himself, nominé Satanis Magna Veritas. Enfin, il y a énormément de choses à voir, c'est des choses intéressantes. Et ce qu'il faut noter, c'est que tous les gains vont être reversés à une œuvre caritative qui s'appelle Action Mali. Et ça, c'est très bien. Donc, a priori, une manifestation à ne pas manquer, une vente aux enchères pour la bonne cause, des choses très intéressantes qui sont mises aux enchères par les éditeurs eux-mêmes et par les auteurs eux-mêmes. Donc, si vous êtes parisien, un événement à ne pas rater.
Et puis, si vous êtes vers Bordeaux, il y aura l'association Ludoludique, qui a déjà fait plusieurs animations avec succès dans la région bordelaise, qui propose le dimanche 18 septembre de 11h à 18h le festival de Lucie en fête, qui se déroulera donc au parc de Lucie, avenue de la République à Bordeaux, qui propose au grand public, là aussi, enfin à tout public, de découvrir le jeu, encore une fois, sous toutes ses formes, tout comme à Lyon, tout comme à Dijon. La rentrée va vraiment être ludique cette année.
Et puis, il est encore temps de vous rappeler que du 3 au 4 septembre aura lieu le 2e ou 3e Open de France de Mulcu à passer dans les Yvelines. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site, voir s'il reste encore. Enfin, il y aura encore des places de toute façon. Et n'oubliez pas cet événement qui est un énorme événement ludique qui doit clore toutes les parties de Mulcu que vous avez fait pendant cet été. Et si vous avez raté ça, n'hésitez pas à vous rendre sur le site parce que le Mulcu, c'est bon, mangez-en.
Et pour la rubrique écran, Olivier, je te propose, on va faire un petit point sur l'actualité de l'été. Parce que pendant qu'on était tranquille à la plage ou à jouer avec les enfants...
Sous la pluie.
Ouais, bah fallait pas partir en juillet. Ce qui... Les sites ont continué à bosser. Et donc, Agricola est sorti sur boiteajeux.net. On a également 3 qui viennent d'arriver sur Board Game Arena. Et également, je dirais même, enfin, on peut jouer avec l'extension Dominion Intrigue aussi sur Board Game Arena. Donc, ça permet de jouer avec toutes les dispositions du jeu de base, de l'intrigue, de mélanger les boîtes. On peut tout choisir quand on crée la partie. Voilà, ça c'est les bonnes nouvelles. Par contre, on ne les a pas testées, donc on vous en dira pas plus. Mais si vous êtes intéressé, allez voir les sites.
Oui, ça fera certainement partie de nos tests, de nos futurs tests. Parce que 3, il est dans mon viseur depuis un moment et il va forcément être testé dans pas longtemps. Et puis côté sortie iPad, on en a eu deux grosses. On a eu Ghost Stories d'abord, par Repoprod, et puis on a eu Puerto Rico. Et c'est de cela dont je voulais vous parler. D'abord, parler de Puerto Rico, faire une petite revue de Puerto Rico sur iPad, et puis d'enchaîner sur Candado, dont on vous a parlé il y a quelques numéros. C'est un jeu sur Android, et qui est en fait le portage sur tablette de San Juan, qui est un jeu dérivé de Puerto Rico. Tout d'abord, Puerto Rico. C'est vendu actuellement 5,99€. C'est un prix de lancement qui va augmenter, qui va arriver à presque 8€, 7,99€. Et c'est seulement sur iPad. Donc je vous conseille de l'acheter maintenant. Je trouve que 6€, ça vaut encore le coup. 8€, psychologiquement, c'est un petit peu cher. Ça vaut de toute façon toujours le coup. Mais c'est ce dont on avait parlé, quand même un petit peu cher pour un jeu iPad. Alors, on retrouve sur cette application tout le graphisme de Puerto Rico, la première version. Il y a eu d'autres versions, mais je ne sais pas si le graphisme a changé.
Il prévoit, je crois, le relooker l'année prochaine pour ses 10 ans.
Donc le jeu en lui-même, pour ceux qui sont à passer à côté de Puerto Rico, honte à vous. Le jeu Puerto Rico, c'est un jeu d'économie, puisqu'on va avoir une île sur laquelle on n'aura rien du tout, et pour laquelle on va créer des plantations, faire venir des colons. On va également construire des bâtiments. Et avec ça, ça va nous permettre de produire des denrées qu'on va soit vendre localement sur l'île, soit exporter. Les points de victoire sont de deux types. Les exportations qu'on va faire des matières premières et tous les bâtiments qui vont être construits. Donc on a des bâtiments simples et puis on a des bâtiments évolués qui coûtent le plus cher, qui vont permettre de gagner plus de points de victoire, uniquement des points de victoire à la fin de la partie en fonction de ce qu'on aura fait pendant le jeu. Et puis mécanisme important, chaque action est liée à un rôle. C'est-à-dire que l'intendant va faire venir des colons sur l'île. Alors dans le jeu de base, c'était des colons, c'était des esclaves. Et là, en l'occurrence, on va vous parler de colons espagnols pour aller travailler dans les champs de coton. C'est très politiquement correct. Ensuite, il faut prendre le maçon pour bâtir, il faut prendre le capitaine pour envoyer des denrées vers l'ancien continent. Celui qui a choisi le rôle va avoir un bonus. Et en plus, les rôles qui ne sont pas utilisés, on va avoir un petit bonus également, puisqu'on va placer une pièce, un sou sur chaque rôle qui ne sera pas utilisé lors d'un tour. Donc en ce qui concerne le portage sur iPad, d'abord la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a un didacticiel. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans le jeu, vous appuyez sur le didacticiel, vous laissez guider en fait par le programme qui va vous expliquer quoi faire. Il y a une partie qui est une partie de jeu qui va se dérouler, et on va vous expliquer à tous les niveaux ce que vous aurez à faire et comment le faire. L'interface, pour moi, est très bien faite. C'est-à-dire que sur l'interface globale, on va avoir tous les composants du jeu. On va avoir le nombre de points de victoire, le nombre de colons, le nombre de sous. C'est important parce que la fin de la partie est définie en fonction de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de colons, plus de points de victoire, on s'arrête. Puis la troisième façon d'arrêter le jeu, c'est d'avoir 12 bâtiments qui ont été construits sur le plateau d'un des joueurs. On va avoir aussi les plantations disponibles pour le prochain tour. On va avoir aussi le nombre de colons disponibles pour le prochain tour. Et puis on va voir et le marché, puisqu'on peut vendre localement sur San Juan ou expédier, et on va voir des bateaux. Il y a des bateaux de différentes tailles, on les voit sur l'écran. On va voir également un état de chaque adversaire. C'est-à-dire on sait exactement combien il a de colons, combien il a d'argent, combien les points de victoire sont cachés et combien il a de produits. Et puis sur le côté, on va avoir soit les rôles qui seront expliqués, soit les bâtiments. Donc tout est disponible, tout est visible à tout moment de la partie. Et ça, c'est très 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 bien fait. Donc ce didacticiel, les règles, puisque les règles sont également disponibles, et puis un almanach, ils sont allés jusqu'à faire une sorte de database en fait, avec une vue d'ensemble du jeu, les rôles, les bâtiments, les ressources, pour nous aider encore à rentrer dans le jeu. Donc tout est fait à tous les niveaux pour que ce soit facile à prendre en main et qu'on rentre facilement dans le jeu. Donc quand on lance une partie, on a le choix de jouer de 1 à 4 joueurs, on peut jouer tout seul, on peut laisser jouer l'ordinateur tout seul, et puis on peut choisir ses adversaires, le nombre d'adversaires, on peut jouer à 5 humains, on peut jouer à 2 humains, 3 humains, et choisir le nombre d'IA. Les IA ont des forces, des difficultés différentes, et puis le fin du fin, c'est qu'on peut choisir l'orientation de l'iPad en fonction de qui joue. C'est-à-dire qu'on peut être face à face, et puis ne pas tourner l'iPad, juste le tendre, et il va se tourner comme dans, un peu dans Small World. Donc jusque-là, tout va bien. Il y a des animations qu'on peut désactiver. Tout est débrayable et ça, c'est bien aussi. Et lors des parties, on va toujours pouvoir avoir une aide contextuelle. Donc en appuyant sur le petit point d'interrogation, on va nous dire « Vous devriez, par exemple, prendre une plantation de sucre » ou « Vous devriez prendre ce rôle-là ». Et puis, en glissant le même point d'interrogation sur un élément, on va avoir un petit résumé de ce que c'est. Donc, par exemple, si je déplace mon point d'interrogation sur un champ de sucre, on va dire valeur de commerce de base, donc combien est-ce que ça va me rapporter, le bâtiment requis pour la production, la raffinerie de sucre, etc., etc. À tous les niveaux, on a des aides et à tous les niveaux, on n'est jamais perdu. Ben, l'interface, elle est logique. Étant donné que tout est visible, il n'y a pas de problème. Quand une chose est active, par exemple, quand un rôle est actif, il clignote, c'est-à-dire qu'il disparaît pas, mais il devient un petit peu plus gros. Tout est facilement accessible. Et en fin de compte, tout marche de façon tout à fait fluide. Les IA sont assez rapides. On retrouve le plaisir de jouer à Puerto Rico et c'est vraiment très, 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 très agréable. Bah, le plus, d'abord, c'est Puerto Rico, quoi. C'est le jeu numéro 1 sur BadGameGeek. C'est un excellent jeu. Après, ça dépend un peu des adversaires que vous avez enfin, IRL, dans la vraie vie, quand vous avez des gens qui sont pas très très forts, qui sont juste à côté de vous, ben, ça peut perturber la partie si vous pouvez choisir les IA. Il y a la manipulation avec toute la production, ben, vous n'avez pas à la faire, donc ça c'est très bien. Les aides, ça c'est le point super positif de ce portage, c'est qu'on a des aides partout. Le jeu est pas évident et en fin de compte, vous pouvez pas ne pas comprendre quelque chose. Tout est expliqué. Et puis c'est vraiment multijoueur, c'est-à-dire qu'on a pas mal de jeux qui sont bridés parce qu'on ne peut pas jouer soit avec la totalité des humains, soit il faut jouer en ligne. Bon, ça c'est là en l'occurrence, on peut choisir tout et il est vraiment complet, donc c'est très bien. Aimer moins. Bah, à part le son qui est pas très 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 sympa, enfin c'est du clavecin ou une petite guitare à la con. Bon, tant pis peut-être. Et puis que tous les graphismes sont en français, donc à chaque fois qu'on vous explique quelque chose, c'est en français. Par contre, tous les sons sont en anglais, c'est un petit peu décevant parce que le portage est pas complètement fait tout à fait localisé. Et puis, dernière chose, il n'y a pas de multijoueur online, ou alors moi, j'ai pas réussi à le faire marcher. Bon, ça me dérange pas, mais c'est un petit peu dommage. Pour conclure, chapeau. Très belle réalisation. Le jeu est un des meilleurs jeux au monde. Donc, ça fait du bien de voir des jeux comme ça portés de cette façon-là sur iPad. C'est vraiment... pour moi, c'est réussi. Et c'est vraiment bien.
Écoute Olivier, je te rejoins, j'ai pas fait une partie complète, j'ai pas eu le temps de le tester, pas pu le télécharger depuis les vacances, donc j'ai entre les mains que depuis ce matin. Au début j'étais un petit peu perdu par l'interface, et en fait on se rend compte très rapidement qu'on a tout sous la main. C'est très fort en fait le pari d'avoir réussi à tout afficher sur l'écran pour un jeu comme Puerto Rico. Quand on doit choisir un rôle, un bâtiment, si on a oublié, hop, il suffit de cliquer sur un petit bouton et puis l'aide apparaît sur la droite. On voit en permanence ce que chaque joueur a, ce qui est quand même gageur avec 5 joueurs, avec des bâtiments, des plantations, savoir combien de ressources ils ont, d'argent, etc. Tout est affiché, toutes les informations sont disponibles, c'est pas mal du tout.
Les rôles restants aussi.
Les rôles restants, ouais, tout à fait. Vraiment, tout est affiché, toutes les informations, on les trouve. Là-dessus, c'est vraiment impeccable. Après, moi, je pourrais pas dire les IA si elles sont bonnes ou pas. Le peu que j'ai essayé, j'ai mis que des IA difficiles. Lors de leur choix des rôles, elles se débrouillent pas mal. Elles vont pas prendre les rôles. Le problème, en fait, pour beaucoup de joueurs, Puerto Rico considère qu'il n'y a pas d'interactivité. Au contraire, c'est un des jeux qui a la plus forte interactivité dans le choix des rôles. Ils sont très importants. Et souvent, les débutants font des erreurs dans les choix des rôles. Là, les IA en mode difficile ne semblent pas en faire spécialement. Donc après, il faut que je fasse d'autres parties pour voir. La question, c'est est-ce que tu jouerais à 5 autour d'un iPad ? Je suis quand même pas sûr. Peut-être à 2, peut-être. Et après, tu mets des IA, mais...
Ouais, mais au moins, là, t'en as la possibilité.
Mais au moins, il y a la possibilité, ouais, je suis d'accord. Bon, après, pour le prix, c'est peut-être un petit peu costaud. On revient toujours au même débat. Il y a eu du boulot, hein. On voit que c'est un vrai développement,
ouais,
bien fait, etc. Le jeu est en français, c'est pas rien. On a quand même vu pas mal de jeux où on a mis un reproche en disant « c'est en anglais ». Donc celui-là est en français, c'est son avantage. Effectivement, il y a le didacticiel, il y a tout ce qu'il faut. Puerto Rico, c'est quand même un jeu qui est pas simple à expliquer aux novices. Le didacticiel remplit son office largement.
Mais c'est surtout que quand tu es perdu,
oui, en plus,
pour, si. pour les premières parties, quand tu ne sais pas quoi faire, on va dire, vous devriez prendre ce rôle, vous devriez construire ce bâtiment. Après, tu as quand même une certaine attitude, parce que pour le placement des colons, par exemple, on va pas te dire, bon, mettez un colon sur votre plantation d'indigo et un colon sur la petite usine d'indigo. On va te dire, essayez d'avoir, enfin, de ne pas faire n'importe quoi, ne pas faire que des carrières et avoir une certaine production, mais tu as quand même une certaine attitude. Néanmoins, tu ne peux pas être perdu. C'est pas possible. Il y a le souci du détail aussi. C'est-à-dire que graphiquement, on va pas représenter un colon qui va dans un champ. On va représenter le champ vide avec le symbole du champ. Et quand on va placer un colon dessus, il va commencer, tu vas voir vraiment le champ grandir, grossir. Et voilà.
Pareil dans les bâtiments, il s'éclaire.
Ouais. T'as de la fumée sur les bâtiments qui sont pleins. Enfin, c'est vraiment une réussite. Je pense qu'avec les jeux Days of Wonder, ça va devenir ma référence en fait en matière de jeux sur iPad. Et c'est pour ça que 6€, même 8€, à la rigueur, je trouve que ça va. Enfin, je veux dire, c'est un vrai jeu, il y a un vrai fond, il est complet, donc ça va.
C'est Codito développement qui a fait, donc ils en ont fait déjà d'autres jeux.
Oui.
C'est pas leur début non plus.
Ouais, ils auraient pu faire un truc pourri, mais là, ils sont pas ratés. Et puis, puisqu'on en était sur Puerto Rico... on vous a parlé il y a un certain temps de Conte d'Ado. Alors Conte d'Ado, ne le cherchez pas sur votre iPad favori. Il est disponible gratuitement. Ça, c'est bien sur Android. Alors, déjà, c'est complètement différent. Donc, alors que quand vous allumez votre iPad, vous avez quelque chose de graphiquement très joli. Là, donc, c'est une version non officiel du jeu, Nandra Sefart. Donc ici, l'idée reprend celle de Puerto Rico, de construction, de développement en fait, mais plutôt orienté sur les immeubles, enfin les bâtiments. Donc un développement plutôt basé sur les bâtiments qui vont nous faire gagner des points de victoire en fonction des bâtiments qu'on va avoir. On va pouvoir quand même vendre des productions. C'est-à-dire que, comme dans Rise of the Galaxy, on va pouvoir produire des denrées. Ces denrées, on va pouvoir les vendre. Et ça va nous rapporter d'autres cartes qui vont nous servir à mettre en place des bâtiments. Donc, c'est sur Android. C'est en anglais seulement. C'est un jeu solo. C'est-à-dire qu'on peut jouer, c'est de 1 à 4 joueurs. Sauf qu'il y a un humain. Et après, on a jusqu'à 3 IA. On peut jouer tout seul aussi. Ce qui permet de se familiariser avec le jeu. C'est une version non officielle et la première impression qu'on a, c'est quand même que c'est un peu hard. C'est-à-dire que la première impression qu'on a, c'est c'est un jeu en ligne de commande.
C'est assez laid, oui.
Ouais, donc il y a 3 écrans, un écran d'accueil avec une sorte de plancher, donc oui, c'est joli, les armoiries de San Juan. Ensuite, on a une page de setup qui est assez succincte. Et puis on rentre assez vite dans le vif du sujet. Et rentrer dans le vif du sujet, ça veut dire avoir des cartes au bas de l'écran, avoir un plateau de jeu avec 12 cases en haut de l'écran, et puis c'est tout. Donc le plateau de jeu, ils ont essayé d'illustrer un petit peu, ils ont fait comme un revêtement pierre, alors qu'avant ils avaient fait du bois, là ils ont fait de la pierre. Et puis les cartes sont à l'image de ce qu'étaient les cartes dans San Juan, c'est-à-dire de couleurs. Donc les bâtiments de production, les cartes de production ont des couleurs bleu pour l'indigo, gris pour le café, etc., etc., blanc pour le sucre. Et puis les bâtiments spéciaux ont une couleur rose. Bon, il ne faut pas s'arrêter là. il faut y aller, il faut prendre son courage à deux mains et puis on commence le jeu. Bon, après, quand on est rentré dedans et quand on a fait la première partie, ça devient logique. C'est-à-dire que quand on laisse son doigt appuyer sur une carte, on voit la carte en entier, on sait ce qu'elle fait. Tout est écrit, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un jeu en ligne de commande, c'est-à-dire qu'on va avoir Game has been set up, donc le jeu a été mis en place, Game has started, le jeu a démarré. Vous êtes maintenant gouverneur, un nouveau round a démarré, et on te dit, donc ça c'est chaque phrase est un retour à la ligne, et on te dit, c'est maintenant votre tour, choisissez un rôle. Donc tu vas appuyer sur pick pour choisir, et puis tu vas choisir ton rôle. Et ensuite, on va dire, voilà, c'est ton rôle maintenant, tu es maintenant maçon. Et on va dire, sélectionner une carte de ta main à construire. Tout va être dit. Donc, d'un côté, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à voir ça dans un jeu de maintenant. C'est plus un jeu des années 80. D'un autre côté, quand tu as un doute, tu vas te reporter à ça. Tu auras un log. Tu vas dire, oui, j'ai fait ça. Tiens, j'ai fait ça. Tu vas avoir aussi ce que les autres joueurs ont fait. Donc, ça va passer très vite. L'IA va passer très vite sur les actions des autres joueurs. Donc, ça va être écrit, ce qu'ils ont fait. Donc, on t'a qu'à lire pour savoir ce que tout le monde a fait. On peut aussi glisser les plateaux individuels, le plateau individuel qui est sur le haut de l'écran, pour aller voir le plateau individuel des autres joueurs. On va aussi avoir un rappel quand on laisse appuyer son doigt sur une des cases. Forcément, l'effet démo, ça ne marche pas. On va avoir un rappel de l'état global de la partie. On va dire, voilà, c'est ça. On va voir en un seul coup d'œil ce que nous on a en point de victoire, en nombre de cartes et le nombre de cases qui sont occupées, puisque la fin de la partie c'est 12 bâtiments construits. Et on va voir pour les autres joueurs ce qu'il en est. Donc c'est très fonctionnel en fin de compte. C'est très fonctionnel. On a des rappels sur le fonctionnement des bâtiments. Le seul gros reproche que je fais, c'est que quand on a construit les bâtiments et qu'on les a mis dans notre plateau de jeu, il est très difficile. Enfin, je n'ai pas trouvé la façon de savoir ce que ça fait. Donc, quand on construit un bâtiment spécial, on n'est pas très, qu'on ne se souvient plus trop de ce que ça fait, qu'on le met sur notre plateau et qu'on se demande si ça nous fait économiser une carte quand on construit un bâtiment ou ça nous rapporte une carte quand on le crée, bah c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que on aimerait bien avoir ce rappel-là. Sinon, les parties durent un quart d'heure. C'est très très fluide. On revient bien au jeu comme on le connaît. Donc c'est vraiment une réussite dans son domaine. C'est gratuit. C'est encore une version bêta. C'est la 0.9.7, je crois. C'est très agréable en fait. Alors, c'est Sandrone. Donc, il y a eu Race for the Galaxy derrière. On aime ou on n'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent Race for the Galaxy à Sandrone.
Non, mais je crois qu'il faut pas faire la fine bouche. C'est gratuit.
Oui.
Ça se joue très rapidement. Moi, je fais des parties dans le bus.
Oui.
Ça se joue quand on connaît le jeu, ça va très vite. C'est un peu austère présentation, mais c'est gratuit. On va pas chicaner. J'ai qu'un reproche, c'est la façon dont on a de piocher les cartes. Moi, j'aime pas. Faut faire défiler. On peut pas avoir une vue synthétique rapidement des cartes. Quand on a beaucoup de cartes en main, on n'arrive pas à tout voir ce qu'on a. C'est un petit peu gênant. Et le fait effectivement qu'il faut revoir les bâtiments qu'on a construits, d'autant que dans l'application, il y a l'extension. Une extension non officielle, mais qui est intégrée avec laquelle on peut jouer.
Tout à fait. À
la base, c'est des bâtiments qu'on ne connaît pas et voilà, il faut un petit peu, faut plusieurs parties pour les intégrer.
Tout à fait. À la base, il y a 90 cartes environ et l'expansion rajoute 30 cartes. Et il y a une variante aussi, 5 à 8 cartes, mais j'ai jamais réussi à la faire marcher celle-là.
Tu la mets, en fait, c'est quand tu dois piocher des cartes, je crois que tu en as plus et tu choisis lesquelles tu gardes. Pour réduire un peu le hasard de la pioche. D'accord. Mais ça allonge la partie puisque ça fait des choix en plus.
C'est un des rares jeux de société portés sur tablette Android. Donc ça, c'est aussi un point positif, c'est que à part, tu vas avoir Carcassonne, et à part ça, t'as pas grand-chose. C'est un petit peu le désert. Quoi.
Bah, en fait, tout à l'heure, on parlait de Codito, ils avaient annoncé fin 2010, on attend toujours, qu'ils devaient sortir des jeux, ils avaient dit d'ici fin 2011, hein, ceci dit, on va pas les blâmer, ils allaient sortir Medici, Ra ou encore Euphrates et Tigris sur Android. Bon, on attend encore un petit peu, il reste quelques mois.
Voilà, mais ça arrive, hein. Le marchand de riz, je pense, va arriver. Il y avait...
Ouais, cela dit, il y a certains éditeurs qui ne veulent pas, ne veulent juste même pas entendre parler du marché d'Android. Enfin bon. Je vais faire mes moins quand même pour Sandrone, enfin Candido. C'est en anglais, c'est très, très verbeux. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Pamela Anderson, ça va être compliqué en fait. C'est forcément pas jouable quand vous n'êtes pas anglophile. C'est très textuel, donc il y a beaucoup à lire. C'est un peu comme chez Nintendo. Donc je l'ai dit, quand on a posé ces bâtiments, bah, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais ça, c'est un petit reproche. Et puis ben voilà, c'est San Juan, donc on a fait mieux depuis, quoi. Et puis c'est surtout un seul joueur, donc ça c'est, tu vois, typiquement moi il joue à deux, ça me plairait bien.
Ouais, enfin bon, comme je dis, il est gratuit, hein.
Voilà,
on est déjà bien content d'avoir tout ça dans la poche.
Donc ma conclusion, c'est très perfectible, c'est-à-dire qu'entre le graphisme et puis le contexte, bah c'est compliqué. Par contre, bah c'est bien réalisé, ça marche. Et puis c'est encore un jeu de société porté sur Android, et ça c'est bien. Voilà, le premier numéro de cette deuxième saison est donc fini. Ça a été très très laborieux de notre côté, parce que le retour de vacances... les vacances, on
a perdu beaucoup de choses avec les vacances, mais...
Ouais, c'est ça.
On est motivé, on a plein d'idées pour faire bouger le podcast dans les prochains numéros. Il faut juste qu'on se remette dans le bas.
Ouais, alors donc avant de se quitter, on vous rappelle l'adresse de notre site podcast.proxy avec un i-jeu avec un x.fr. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre page Facebook et puis le Twitter @proxyjeu. Et n'hésitez pas à nous suivre, à nous envoyer des commentaires. iTunes, bien sûr, petit commentaire, une note, c'est très gentil. Puis ça nous permet d'avoir de la visibilité, de la crédibilité. Et puis d'être connu des gens qui passeraient par iTunes. Et n'hésitez pas à nous dire si vous téléchargez notre podcast plutôt par iTunes ou plutôt par un autre biais. Ça peut être Miro, ça peut être directement depuis notre flux RSS. Ça nous intéresse de savoir à qui on s'adresse et comment on s'adresse aux gens. Donc éventuellement on fera peut-être un petit sondage par la suite, mais n'hésitez pas à nous faire un commentaire dans ce sens sur notre site. Voilà, bah écoute Jérémy, je te dis à dans 15 jours.
À dans 15 jours Olivier.
Jouez bien et rendez-vous dans 15 jours pour le 11e numéro de Proxy Jeux. Au revoir.
Au revoir.